Chers frères et sœurs et chers amis, ceci est la deuxième partie de la prière du Notre Père. Et nous allons étudier maintenant les demandes concernant l'homme. Premièrement, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Deuxièmement, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et troisièmement, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Voyez-vous, l'homme s'évertue à toutes sortes de choses, et son activité consiste surtout à les satisfaire. Dans bien des cas d'ailleurs, il y arrive, du moins pour ce qui est essentiel. Pourtant, il y a encore dans notre monde des millions, des dizaines de millions même d'hommes et de femmes et d'enfants qui n'ont pas même le strict nécessaire. Aujourd'hui, au cœur du 21e siècle, des multitudes de nos semblables non seulement ont faim, mais meurent chaque jour de faim. Devant tous ces besoins, Jésus-Christ, dans le Notre Père, le modèle des prières, apprend à ses disciples à dire à Dieu « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Sans doute, nombre de nos contemporains ne se tournent-ils pas vers Dieu dans cette attente. Ils estiment qu'ils peuvent se tirer d'affaire tout seuls. N'ont-ils pas de l'argent ? N'ont-ils pas un bon métier, une robuste santé? C'est bon pour les pauvres, pour les malades, pour les peuples sous-développés de demander à Dieu le pain quotidien. Mais quant à eux, ils n'ont pas de temps à perdre, ceux qui possèdent tout. S'ils se donnent pourtant la peine de réfléchir un instant, ils comprendraient que de plus puissants qu'eux ont connu de retentissants revers de fortune. Ils se souviendraient que celui qui est debout risque toujours de tomber. Ils découvriraient qu'ils n'ont rien, qu'ils ne l'aient reçu, et que s'ils peuvent planter et même arroser, finalement, eh bien c'est Dieu qui fait croître. Mais même cette graine qu'ils peuvent mettre en terre, d'où la tient-il? Qui a ouvert un passage à la pluie, demande la Bible à l'homme, pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe? Ce n'est pas tout, car le pain dont parle Jésus-Christ, si c'est le pain que fabriquent nos boulangers, si c'est tout ce qui est nécessaire à la vie de notre corps, et aussi plus que cela, nous ne sommes pas en effet seulement un corps. Nous ne sommes pas seulement, comme on l'a dit parfois, simplement un tube digestif. Oh non! Voyez-vous, les Césars de la Rome antique le savaient, eux, qui offraient à leur peuple du pain et des jeux. Mais les jeux eux-mêmes ne suffisent pas. Ils n'apaisent pas la faim de l'âme, pas du tout, car nous avons une âme qui veut vivre et que tant d'hommes laissent languir. Et c'est pourquoi la Bible nous dit rapportant la parole de Jésus-Christ, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. » Et Jésus-Christ d'ajouter, « Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. » Alors, nous dit l'Évangile, les disciples lui demandèrent, « Seigneur, oui, donne-nous toujours de ce pain. » Et Jésus de répondre, « Mais je suis le pain de vie, et celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Et si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia. Comme le pain de nos boulangers devient chair de notre chair, le pain vivant qui est descendu du ciel, le pain spirituel, devient lui âme de notre âme, vie de notre vie, si du moins nous prenons le temps et la peine de nous en nourrir. Jésus-Christ, dans cette partie de notre Père, nous fait dire « Donne-nous ». Il s'agit réellement d'un don. L'enfant de Dieu sait, en effet, que l'homme ne mérite rien. Il ne mérite pas que la pluie tombe du ciel pour féconder le sol. Il ne mérite pas que le soleil luise pour faire pousser la plante. Son travail, sa peine, sa sueur sont bien insuffisants. Oui, personne ne peut dire « Dieu me doit quelque chose ». Au vrai, l'homme mérite pourtant un salaire, bien entendu. Il est pécheur, dit Dieu, et il mérite le salaire des pécheurs. Voilà le salaire. Or, la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est quoi? Est-ce que c'est la vie? Pas du tout. Le salaire du péché, hélas, c'est la mort, selon Romains, chapitre 6, verset 23. Donc, nos efforts, nos travaux, notre argent, notre religion avec toutes ces pratiques ne nous donnent aucun droit sur les richesses et les bénédictions dont Dieu dispose. Quoi que nous fassions, nous ne méritons jamais rien. Mais Dieu, dont l'amour est infini, nous offre tout. Tout, même avec abondance, tout avec plénitude. Ce n'est pas un dû, c'est une grâce. Donc, quelque chose que nous ne méritons pas. Et c'est pourquoi Jésus-Christ nous apprend à dire « Donne-nous ». Jésus-Christ précise encore « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Oh, bien des gens se tuent à amasser. Ils ont toujours peur de manquer de quelque chose. Mais Christ nous demande, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et à chaque jour suffit sa peine. Je crois que c'est dans Matthieu chapitre 6, verset 34. Ce n'est pas l'insouciance ni l'imprévoyance que Jésus-Christ recommande. Absolument pas. Mais il recommande la confiance. Dieu ne serait-il pas capable de donner chaque jour ce qu'il faut à son enfant? Trop de croyants s'appuient sur leur richesse, leur avoir, que pourtant les vers et la rouille peuvent ronger, et ils n'osent pas s'appuyer sur Dieu. Ferait-il donc défaut? Serait-il peut-être même infidèle? Bien sûr, il serait présomptueux de demander au Seigneur qu'il nous donne les moyens d'aller en vacances à Hawaï, Honolulu, etc., quand des millions de gens meurent de faim. Cela fait du reste plus de 20 ans que j'ai jamais été en vacances. Et ce n'est pas pour ça que je vais abandonner ma foi que j'ai en Jésus-Christ. Surtout pas. Voyez-vous, quand les Hébreux étaient dans le désert, et ils y furent quand même quelque 40 ans, manquèrent-ils un seul jour du nécessaire? Chaque jour, ils eurent la manne qu'il leur fallait. Personne n'en manqua jamais. Jour après jour, elle leur fut donnée, même quand ils avaient été infidèles. Combien plus alors Dieu prend-il soin de ceux qui s'attendent à lui? David, au psaume 37, ne peut que le constater. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. En nous invitant à demander aujourd'hui le pain de ce jour, Jésus-Christ nous rappelle encore que c'est chaque jour qu'il faut faire confiance à Dieu et prier, soit pour demander, soit pour remercier. Aujourd'hui, pour les biens d'aujourd'hui, demain, pour ceux de demain. Impossible de se relâcher, car la Bible nous demande de prier sans cesse. Chers amis, apprenons à faire pleine confiance à Dieu. Lui qui a donné son Fils pour nous racheter, comment donc ne nous donnerait-il pas maintenant toutes choses avec lui? Approchons-nous sans cesse du trône de la grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Car la foi, ce n'est pas seulement une attente, c'est un mouvement vers Dieu. Tout est là, le pain du corps et le pain de l'âme. De même que vous tendez la main, quand vous tendez la main vers la miche pour apaiser votre faim, tendez-la vers le pain qui est descendu du ciel. Oui, vers Jésus-Christ que Dieu nous offre carrément pour nous donner une vie impérissable. C'est cela, la foi. Dieu n'attend pas autre chose de vous. Il fera le reste, tout le reste, croyez-moi. Et non seulement vous n'aurez plus faim, mais vous serez dans l'abondance. Deuxièmement, ensuite, notre texte nous dit « Pardonne-nous nos offenses » comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si la prière que le Christ a enseignée à ses disciples s'arrêtait à la demande qui dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », ceux qui se seraient ainsi exprimés feraient probablement une curieuse expérience. l'expérience de gens en présence d'une table bien garnie, de mets les plus succulents qui se puissent imaginer, mais dans l'incapacité absolue d'avaler la moindre bouchée. Il est des heures, en effet, où rien ne passe. On a l'impression qu'une sorte de boule bloque carrément, obstinément l'œsophage, ou encore qu'une main impitoyable nous étreint la gorge. Une grande peine, peut-être la peur, le sentiment d'une faute grave, peuvent, croyez-moi, avoir cette conséquence. Comment ne serait-ce pas ce qu'éprouve celui qui s'approche sincèrement de Dieu? Ce Dieu n'est-il pas saint? N'a-t-il pas exprimé sa volonté dans divers ordres? N'est-il pas le roi à qui tout doit se soumettre? Mais quel homme peut se présenter la tête haute devant ce Dieu? Qui s'est soumis pleinement à l'autorité de ce roi? Qui a exécuté ses ordres dans leur totalité? Quand quelqu'un prend conscience de son état misérable, de sa condition de rebelle envers Dieu et même, comme le dit la Bible, d'ennemi de Dieu, quand il mesure tout le poids de son péché, comment pourrait-il tendre la main et puiser dans les bénédictions que Dieu a préparées pour son enfant? C'est pour enlever cette boule qui bloque le tube digestif ou pour desserrer la main qui étreint la gorge de celui qui vient à Dieu que Jésus-Christ enseigne à dire « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Personne ne peut se dispenser de dire cette phrase du Notre Père en prétendant que lui, il n'a pas offensé Dieu. Le meilleur des hommes, le plus sérieux, le plus honnête et le plus religieux et sans aucun doute pécheur, oui, pécheur aux yeux de Dieu, car il n'y a pas de juste, pas même un seul, nous dit la Bible. Tous ont péché, ajoute-t-elle. Nous bronchons tous de plusieurs manières, reconnaît l'apôtre Jacques. Et l'apôtre Jean affirme « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Or le salaire du péché, c'est la mort, ajoute la Bible. Mais au moment où Jésus-Christ nous apprend à avouer notre péché, il nous révèle que Dieu sait faire grâce. Pardonne-nous nos offenses, nous enseigne-t-il à dire. Entendons bien ce que le Christ dit ici. Il n'est pas question d'argent à verser, d'œuvres à accomplir, de pèlerinage à faire, ni même de religion à pratiquer. Jésus-Christ nous montre qu'il y a un seul recours, la grâce de Dieu et son pardon. Si la cinquième pétition de la prière modèle n'a pas directement à faire avec le salut du pécheur, elle est par contre intimement liée à la vie de chaque enfant de Dieu. Quel enfant de Dieu n'a plus jamais eu besoin du pardon de son Père céleste? C'est ce pardon-là que Jésus-Christ nous enseigne à demander et à trouver auprès du Père. Le chrétien qui a fauté doit demander au Seigneur de lui faire grâce. Mais il ne recevra le pardon que s'il pardonne lui-même à ceux qui l'ont offensé. Vous l'avez remarqué et la chose est bien normale. Il est demandé davantage à l'enfant de Dieu qui se repent qu'à l'inconverti appelant simplement le salut. Voyez-vous, Dieu ne pardonnera pas ses offenses aux chrétiens convertis si, par exemple, ce chrétien ne pardonnerait pas à ceux qui l'ont offensé. Quand Jésus-Christ nous a appris à prier « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », il a établi plutôt une relation de possibilité. Quand nous pardonnons, nous rendons le pardon de Dieu accessible. Les obstacles sur le chemin du pardon divin sont alors enlevés, car nos rancunes, nos inimitiés, nos querelles obstruent le chemin sur lequel le pardon de Dieu veut nous atteindre. Enfin, la relation entre le pardon divin et le nôtre établit une preuve de sincérité. Vous le savez, l'âme peut supporter beaucoup de sévères épreuves et prospérer malgré cela, mais quand il y a l'hypocrisie, eh bien l'âme dépérit sûrement. Or, que penser de la sincérité du repentir de l'homme de la parabole, par exemple, à qui l'on avait remis une dette, disons, de 5 millions d'euros, quand nous apprenons qu'il fut trouvé peu après en train d'étrangler un pauvre homme qui ne pouvait lui payer immédiatement la petite somme, disons, de 70 euros. Si Dieu nous a pardonné nos offenses, chers amis, nous aussi, nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Oui, Jésus-Christ apporte le pardon de Dieu. Si Jésus-Christ est venu dans le monde, c'est précisément pour nous apporter le pardon de Dieu et ce que les religions, les dévouements, les souffrances ou l'argent ne pouvaient pas faire, il l'a accompli. Il est venu pour payer le prix du péché à notre place et pour recevoir sur lui la malédiction qui devait retomber sur nous. Donc il s'est chargé de nos maladies, proclame également le prophète Ésaïe. Il a donc porté nos douleurs, il a été meurtri pour nos péchés, il a été brisé à cause de nos iniquités. Le prix que nous devions payer, eh bien c'est la mort, c'est notre mort. Mais dans son amour pour nous, il s'est mis à notre place. Et un jour, une croix a été dressée et sur cette croix, le Fils de Dieu, lui, si juste, lui dont la vie avait été sainte, n'oublions pas, incomparable même, a été cloué à notre place et il est mort à notre place. Et ceci pour payer notre rançon. Il a été livré pour nos offenses, écrit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 4, verset 25. Oui, c'est là ce qu'il a fait pour nous, la couronne d'épines qui ensanglante son front, les clous dans ses mains, ses pieds, le fer de lance qui transperce son côté, sa chair déchirée, son sang qui coule, son âme accablée du poids terrible du péché, ses souffrances, son agonie, sa mort, tout cela, c'est pour nous qu'il le subit. Oui, pour nous, car il nous aime. Pour nous, car nous sommes perdus, et il veut nous sauver. Oui, la croix a été dressée, et depuis qu'elle a été dressée, elle proclame la grâce aux pécheurs qui se repentent et qui croient. La croix a été dressée, elle reste encore debout, appelant au salut les hommes et les femmes de tout lieu, de toute race, de toute condition, vous appelant vous aussi et vous offrant à vous aussi, chers amis, le pardon de Dieu. Pardonne-nous nos offenses. Il faut donc reconnaître son péché et implorer le pardon de Dieu pour être sauvé. Dieu, en effet, n'impose pas son pardon, mais celui qui implore le reçoit. Oui, celui qui demande, qui l'implore, va recevoir le pardon. Ça, c'est certain. Il sera même justifié. Il est réconcilié avec Dieu. Il a donc prouvé la paix, il a trouvé, en effet, la paix avec Dieu. N'est-ce pas merveilleux, cela? Et désormais, il ne craint plus rien, car il a trouvé la paix en Dieu. Toutes les frayeurs qui pourraient l'étreindre se relâchent. Si Dieu est pour nous, écrit l'apôtre Paul, qui sera contre nous? Et il ajoute que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ. Ni l'affliction, ni l'angoisse, ni la vie, ni même la mort. Un jour, on jugeait un homme qui avait été coupable d'un grand crime. Mais à la stupéfaction de tous, il paraissait parfaitement à son aise. Personne n'y comprenait rien. Même quand le verdict de condamnation à mort fut prononcé, il resta impassible. Mais mettant la main dans sa poche, il en retira un document qu'il tendit au juge. Et il sortit libre de la salle. Voyez-vous, c'était la grâce de son roi qu'il avait dans sa poche. Le roi lui avait dit de se laisser juger et de ne produire l'acte de grâce qu'après le prononcé du jugement. Peu lui importait donc du résultat. Et oui, c'est là précisément ce qui nous rend paisibles, car voyez-vous, nous avons obtenu le pardon du roi des rois, le pardon de Dieu, et l'acte de grâce est scellé du précieux sang de son propre Fils Jésus-Christ. Et là, nous pouvons dire ensemble, Alléluia, gloire à Dieu. Chers amis, et vous, avez-vous reçu le pardon de Dieu? Le lui avez-vous même demandé? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, demande la Bible? Repentez-vous et croyez à l'évangile, Saint Marc, chapitre 1, verset 15. Alors, Dieu, selon ses promesses, effacera vos transgressions comme un nuage et vos péchés comme une nuée, et vous pourrez commencer à puiser dans le trésor de ses bénédictions et de ses promesses. Mais au moment où Jésus-Christ apprend à ses disciples à dire « Pardonne-nous nos offenses », il ajoute cette autre parole « Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Il ne peut pas demander à Dieu le pardon de ses fautes, celui dont le cœur reste plein d'animosité, plein d'animosité à l'égard de son prochain, ça marchera pas. Et troisièmement maintenant, ensuite, le texte nous dit « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Et certaines versions disent « Délivre-nous du malin. » Dans nos précédentes études, nous avons examiné successivement différentes demandes que le Christ apprend à ses disciples à présenter à leur divin Père. Nous nous sommes arrêtés d'abord sur les trois demandes qui ont trait à la majesté, à la volonté et au règne de Dieu lui-même. Nous avons ensuite commencé à considérer les requêtes qui concernent l'homme dans ses différents besoins, son besoin du pain quotidien, son besoin de pardon, parce que l'homme est pécheur. Et aujourd'hui, c'est sur la dernière des requêtes que l'homme croyant adresse à Dieu que nous allons donc nous attarder, celle que Jésus-Christ formule en ces mots, « Ne nous soumets pas à la tentation » mais délivre-nous du malin. Contrairement aux autres demandes du Notre Père, qui sont exprimées sous la forme positive, celle-ci l'est sous une forme négative. Ne nous soumets pas à la tentation. Que veut dire Jésus-Christ ? En s'exprimant ainsi. Certes, on pourrait se troubler devant cette demande du Christ. Il préférerait que l'on dise « Ne nous laisse pas tomber dans la tentation ». Mais voyez-vous, le texte original précise formellement « Ne nous induis pas », c'est-à-dire « Ne nous conduis pas dans la tentation, ne nous y soumets pas. » Serait-ce alors que Dieu pourrait nous tenter ? Le Père Céleste, malgré la déclaration de Jésus-Christ, ne donnerait-il pas seulement de bonnes choses à ses enfants ? La Bible nous dit nettement que Dieu ne tente personne. L'apôtre Jacques écrit dans son épître que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Le tentateur, selon l'affirmation de la Bible, c'est Satan, le diable. L'Évangile nous rapporte que c'est lui qui tenta Jésus-Christ dans le désert. Et écrivant aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul leur dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 5, « J'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté. C'est que ce tentateur est vraiment rusé. Ne l'appelle-t-on pas le malin? Oui, le malin. Il se déguise en ange de lumière. Il dresse des pièges. Il use de toutes les séductions possibles, même celles de l'iniquité et de l'injustice. La Bible nous dit qu'un jour, il sera lié. Alors il ne pourra plus nous séduire. Mais, en attendant, il séduit et il tente. C'est bien ce qui arriva à Ève, la première femme. C'est aussi ce que connut Job, dont parle la Bible. Et Dieu, en effet, permet la tentation. Ne nous est-il pas dit dans l'Évangile, Jésus-Christ fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Tout peut servir au malin pour nous tenter. La vie religieuse comme la vie mondaine, la vie tranquille comme la vie aventureuse, le travail comme le loisir, il n'y a pas un seul domaine au monde où l'on puisse être hors d'atteinte du tentateur. Celui qui est debout, même le meilleur, risque toujours de tomber. Dieu permet la tentation, mais comme il est souverain, il lui fixe une limite qu'elle ne peut franchir. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul a pu écrire aux Corinthiens « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Mais pourquoi la tentation est-elle possible? Dieu, on a dit, la permet. Et il la permet parce que il nous a créés libres. Voyez-vous, dans le jardin d'Éden, parmi la multitude des arbres, il y en avait un seulement dont Adam et Ève ne devaient absolument pas manger les fruits. C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu ne nous impose pas de lui obéir, mais il nous invite à le faire, mais il respecte notre liberté, c'est le libre choix. S'il ne permettait pas la tentation, nous ne serions pas libres. Or, c'est à la liberté qu'il nous appelle. Ne nous soumets pas à la tentation, et ceux qui prient ainsi savent qu'ils sont faibles. Ils savent que si l'esprit est bien disposé, la chair est sans force. Et il prie Dieu pour ne pas tomber dans la tentation. Il s'accroche à lui. Il porte le regard sur lui, se détournant ainsi de tout ce qui pourrait leur donner le vertige au point de les faire tomber. Ils le savent faible et donc ils prient. Mais aussi, il veille. Ah oui, veillez, nous est-il dit, et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, leur a dit Jésus-Christ. Il veille et il prie, et s'ils demandent à Dieu de les tenir éloignés de la tentation, eux-mêmes alors vont veiller à ne pas s'y exposer. ne nous soumets pas à la tentation. » Encore une fois, il est bon de souligner ce pronom « nous ». C'est un pluriel, c'est-à-dire que Christ est avec nous dans cette demande. N'est-ce pas lui, Christ, qui s'écrie dans le jardin de Gethsémané, « Mon Père, il est possible que cette coupe, oui, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Et peu après, il insiste en disant « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Faisant allusion à ce moment, tragique de la vie du Christ ici-bas, eh bien l'Épître aux Hébreux constate que, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Ne nous soumets pas à la tentation. Et si celui qui prie sait que Jésus est avec lui pour le secourir, il peut garder la paix dans son cœur. Chers amis, mais voyez-vous, toute maligne qu'elle soit, la tentation peut aussi avoir un effet bénéfique, on n'aurait pas dit. Elle touche nos points sensibles, elle touche nos points faibles et nous les révèle. De même qu'un mal de dents sollicite notre décision de défense et, hélas, de dépense, la tentation sollicite notre attention sur un point faible et notre décision de choix. L'homme étant ce qu'il est, il ne peut que choisir entre l'alternative d'agir positivement ou de moisir carrément moralement. Oui, ça c'est encore autre chose. Voyez-vous, d'autre part, la tentation, elle met carrément, on peut dire en quelque sorte à l'épreuve, elle nous met à l'épreuve. Et comment ? Elle nous enlève aussi toute pensée de propre suffisance, tout esprit d'arrivisme. Oui, la tentation, elle nous aide à admettre humblement ce que l'apôtre Paul éprouvait quand il disait « Ce n'est pas que je sois arrivé, mais je m'élance en avant. » Donc, elle permet enfin, quand elle est rencontrée victorieusement, de glorifier Dieu et de confondre l'adversaire. Et cela aussi, c'est un but positif. Pour que nous rencontrions la tentation victorieusement, nous avons donc besoin d'une intelligence éclairée et d'une force que Dieu seul peut nous donner. Nous avons besoin de sa grâce. Et c'est pourquoi Jésus-Christ nous invite à dire au Père, « Ne nous laisse pas tomber dans la tentation. » C'est la prière de l'humilité. C'est la prière quotidienne indispensable. C'est la prière que nous devons offrir les uns pour les autres avec fidélité. C'est aussi la prière que Dieu veut exaucer car il a le pouvoir de nous garder debout jusqu'à l'avènement du Seigneur. Avant de vous redire comment Dieu veut nous aider au travers de la tentation pour que nous n'y succombions pas, parlons déjà de ce que doit être notre attitude en face d'elle. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler autour de votre tête. Toutefois, vous pouvez les empêcher de nicher dans vos cheveux. Des tentations, vous en aurez inévitablement. Mais vous pouvez refuser de les accueillir. Le salut qui est en Christ nous offre la grâce de dire non. Vous pouvez aussi repousser le risque très grand de jouer avec la tentation. Quelqu'un y prenne, oui, il y a des gens qui prennent un malin plaisir. Ils s'en approchent jusqu'à l'extrême limite et ils croient pouvoir ainsi reculer à temps. Ils jouissent de la demi-satisfaction de sentir le péril, de s'exposer à la chute. Ils sous-estiment l'appel du vide, l'entraînement irrésistible. En attendant la défaite inévitable, ils s'offrent le maigre plaisir de résister que à moitié. Ils clochent donc des deux côtés. Ils essayent de composer avec les deux mondes du bien et du mal. Ils pensent en retirer une plus entière satisfaction. En réalité, les chrétiens qui flirtent avec le mal ne sont à l'aise nulle part, ni en Christ, ni dans le mal. L'insatisfaction est le salaire de tout essai de double satisfaction. On ne peut pas, voyez-vous, servir deux maîtres, jamais. L'Écriture sainte n'a-t-elle pas entièrement raison de dire, selon le Proverbe chapitre 6, verset 27, « Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment ? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés ? Ne jouons donc pas, surtout pas, avec le feu de la tentation. Ce sera, croyez-moi, la sagesse de notre part. Que fais-tu ici ? Demandait un commerçant à un petit garçon qui tourniquet autour de son étalage. « Tu essaies de voler une pomme ?»« Oh non, monsieur !» répondit candidement l'enfant. « Mais j'essaie de ne surtout pas la voler !» Alors mon ami, pour y arriver, déguerpit vivement. C'est encore le meilleur moyen. Oui, c'est bien ce que la parole de Dieu nous enjoint de faire quand elle nous dit « Fuyez les passions de la jeunesse, fuyez ces choses qui vous sollicitent illégitimement. » Mais fuir n'est pas tout. Une pelure de banane peut faire tomber même un géant. Il vaut mieux regardez où l'on marche, veillez, nous a dit Jésus-Christ. Veille en disciplinant ton œil, qui est la portique d'entrée de beaucoup de pensées, d'imagination aussi. Si ton œil est une occasion de chute, dit le Seigneur, ne laisse pas voir ce qu'il veut. Veille en disciplinant ta main qui est l'instrument de l'action. Et si ta main est une occasion de chute, ne la laisse pas faire. Surtout pas. La victoire sur les petites choses nous prépare du reste à remporter remporté des victoires sur les plus grandes épreuves. Il en est qui tombent dans de grands péchés tout simplement parce que ils ont toléré de petites lâchetés et elles ont sapé leur résistance morale. Le Saint-Esprit t'appelle à renoncer à une attitude ou à une situation trouble. Fais-le entièrement de bon cœur avec l'aide de Dieu. Lorsque l'apôtre Paul secoua la vipère qui s'était attachée à son bras, il la secoua énergiquement dans le feu. Qu'il n'y ait aucune réserve dans notre rejet d'une tentation. Que notre non soit non. Et puis quand le péché vous sollicite, pensez aussi que vous êtes un enfant de Dieu. Pensez à la confiance que Dieu vous fait et au témoignage auquel vous êtes attaché. Tel Joseph, vous rappelez sûrement, Joseph, tu peux répondre à la tentation, pourquoi pas? Et il a dit, je ne puis commettre cette grande faute et pécher ainsi contre mon Dieu. Voyez-vous, lorsque une tentation prend une puissance exceptionnelle, il faut appeler carrément au secours. Appeler Dieu, mais aussi s'ouvrir à un chrétien expérimenté, à un serviteur du Christ. C'est une chose étonnante de constater comme on enlève une bonne partie de sa force à une tentation quand on la dépouille de son caractère secret. La tentation niche dans le vide. Ne le tolérons pas dans notre vie. Recherchons donc non seulement de saines et utiles activités, mais encore une plénitude de l'Esprit de Dieu. Eh oui! Et quand le vent souffle en tempête, le promeneur serre son manteau plus fort autour de lui. Et quand la tentation fait rage, il faut d'autant plus s'enfermer dans le Seigneur. Demeurez en moi, nous dit Jésus-Christ, et je demeurerai en vous. Il n'y a pas de vraie victoire possible sans cela. C'est là, croyez-moi, le secret. Un chrétien authentique qui, en face de la tentation, veut faire sa part et crier à Dieu, peut être certain de la délivrance du Seigneur, car, excusez-moi, il est écrit, « Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, et il préparera aussi le moyen d'en sortir. » C'est, croyez-moi, quelque chose de très important. Oui, délivre-nous du malin. C'est le texte original. Par cette phrase, le Christ nous enseigne à prier non seulement contre l'adversité, mais contre l'adversaire. Si jamais cette prière défensive a été urgente et indispensable, c'est bien aujourd'hui, car l'Écriture sainte nous avertit que dans les derniers temps, l'ennemi entrera dans une grande colère. Or, l'Église et les chrétiens fidèles étant toujours les premiers visés, il faut que l'enfant de Dieu sache et veille Oui, qu'il veille pour se défendre contre les rudes assauts de l'adversaire. Et c'est précisément cela que la méditation d'aujourd'hui voudrait encourager. Affirmons tout d'abord que Satan est une terrible réalité. Quelques esprits forts se rient à la pensée de l'existence de Satan, stratège et inspirateur du mal. Or lui, croyez-moi, il demande pas mieux. C'est peut-être sa suprême habileté que d'avoir réussi à faire douter carrément de sa personne. Un ennemi que l'on ignore a beau jeu, et en cette matière, le chrétien est sur ses gardes et sa position est solide. Il a osé miser sa foi sur le Christ et sur la parole de Dieu. Et ce faisant, il s'est aperçu que le Seigneur dit vrai en toutes choses et que sa parole est pure. Par son expérience même, l'enfant de Dieu est donc convaincu que le Christ ne s'est pas trompé et ne nous a pas trompés en parlant du malin comme étant une personne. Ainsi, le Christ et les chrétiens fidèles, ils croient que Satan n'est pas une idée vague ou une vague influence, mais qu'il est une terrible réalité. Mais encore, qui est-il vraiment cet ennemi dépourvu de tout bien? L'Écriture sainte nous apprend que Satan, il fut la plus parfaite et la plus puissante des créatures de Dieu. Un pasteur a écrit « Je me souviendrai toujours » de l'horreur qui me parcourut le corps et l'esprit un jour où je me trouvais devant une jeune fille possédée qui venait de se tordre par terre en écumant. Se détendant tout à coup, elle parut transfigurée par une vision de lumière et je l'entendis murmurer dans une extase incroyable « Oh !» Que tu es beau, Satan, que tu es beau. Ah oui, voyez-vous, la vérité sur la personne de Satan a été bien battue en brèche par les grossières caricatures du Moyen-Âge et par les soi-disant apparitions d'êtres rouges aux pieds fourchus. L'étonnant Lucifer, lui ne demande pas mieux. Il sait bien que plus on le rendra grotesque, moins les gens croiront en lui. Mais attention, la réalité est tout autre, car sa beauté et sa puissance sont très très grandes. Hélas, elles sont entièrement et irrémédiablement tournées carrément vers le mal. Quels sont les desseins de cet être puissant et plein de haine? Les saintes Écritures ne nous laissent pas dans l'ignorance concernant cette question. Par elles, nous savons qu'il est le père du mensonge, sans cesse et partout engagé dans une œuvre de destruction. Ce n'est pas que Satan soit omniprésent, heureusement pas, mais par ses agents démoniaques qui sont des millions, sans compter les humains, par les influences qu'il dirige, eh bien, son action se fait partout sentir. Comme le dit l'Écriture sainte, c'est lui qui dans le monde entier tient les impies en son pouvoir. Il tend des pièges aux incroyants. Il aveugle leur intelligence. Il s'attaque à ceux qui viennent à Jésus-Christ. Il fait que plusieurs s'en détournent pour le suivre, lui, ce mercenaire. Il tente de contrecarrer dans le monde les semailles du Fils de l'homme. Il induit en erreur par des signes trompeurs. Il s'en va à la recherche d'une proie. Il épie les corps, afflige l'un de mutisme et en lie un autre. Il handicape l'apôtre Paul par une cruelle écharde. Il gêne les apôtres dans l'accomplissement de leur mission. Il met carrément dans le cœur de Judas la pensée de trahir son maître. Il conduit Ananias et Saphira à mentir. Il fait la guerre aux enfants de Dieu. En un mot, comme en mille, il cherche à corrompre l'homme et à détruire en lui l'œuvre de Dieu. Il tente de saper chez le chrétien le barrage contre le péché et de bloquer l'action sanctifiante du Saint-Esprit. Ah oui, qu'ils sont vraiment aveugles et naïfs, ou follement téméraires ceux qui peuvent mais ne veulent pas prier comme Jésus l'a enseigné aux siens. Père, délivre-nous du malin. Toutefois, le chrétien converti, grâce en soit rendue à Dieu, n'est heureusement plus sous l'emprise irrésistible de l'adversaire et de ses moyens. En reconnaissant Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous avons en quelque sorte quitté le camp de concentration dans lequel nous étions spirituellement enfermés. Mais nous avons encore à vivre et à combattre comme des résistants en territoire toujours occupé par la formidable puissance de l'ennemi. Pour bien accomplir notre mission, il faut non seulement nous maintenir en étroit contact avec notre Sauveur et les uns avec les autres, mais encore suivre les instructions de prudence et de combat que nous recommande notre guide, la Bible, la parole de Dieu. Vous me permettrez de vous en rappeler les plus importantes. Tout d'abord, l'Écriture sainte nous redit ce qu'elle nous a crié en face de la tentation. Elle nous dit, ne l'oubliez jamais, veillez, veillez. Chers amis, cette étude étant beaucoup trop longue, nous continuerons l'étude « Délivre-nous du malin » sur le prochain CD, où nous continuerons ce merveilleux mot qui nous dit « Veillez, veillez ». Chers amis, nous allons maintenant terminer ensemble par la prière. Prions ensemble. Seigneur, consolateur des cœurs brisés, ô daigne écouter les prières que nous t'offrons pour ceux de nos amis que tu juges nécessaires de visiter par l'affliction. soit leur force et leur soutien. S'il se peut que la coupe d'amertume s'éloigne de leurs lèvres, s'il se peut, ne leur enlève point l'objet si cher de leur affection. Mais Seigneur, que ta volonté soit faite et non pas la nôtre, car tu es sage et miséricordieux. Tu es toujours pour nous le plus tendre Père. Tu ne frappes que pour guérir. Tu n'affliges que pour consoler. Et tu ne châties tes enfants que dans des vues d'amour. Lors même que nous ne pouvons comprendre la profondeur de tes jugements, nous ne devons pas oublier que tu es un Dieu de bonté, de compassion et de grâce. Oui, Seigneur, nos cœurs peuvent souffrir avec ceux qui pleurent, mais ils ne peuvent murmurer. Soutiens, oui, console cette famille affligée pour laquelle nous te prions. Fais-lui sentir la puissance de ton Saint-Esprit, du Consolateur, qui peut seul essuyer toute larme de nos yeux. Que ton Saint-Nom soit glorifié dans l'affliction de ses amis, et quelle que soit, et qu'elle soit vraiment en bénédiction pour leurs âmes. Oui, donne-nous et donne-leur les forces, la soumission à ta volonté dont ils ont besoin et que nous avons besoin, et fais naître dans leur cœur comme dans nos cœurs une profonde résignation à tout ce qu'il te plaira d'ordonner. Exauce, ô Dieu, cette fervente prière au nom de Jésus-Christ, notre adorable et compatissant Sauveur. Amen. Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais que Dieu vous aime. Et nous vous aimons également de tout notre cœur. Soyez bénis. Et merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et vous savez que le prochain CD, nous continuerons donc, évidemment, nous continuerons sur cette merveilleuse étude. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, du malin. Et donc, à bientôt à nouveau, mes chers amis, et merci pour votre intérêt. Au revoir, chers amis.